Détecter la présence de la conscience, décoder à quoi pense un individu, un bébé ou même un animal, ou encore sortir les patients d'un coma, l'étude de la conscience n'est plus considérée aujourd'hui comme une question taboue dans le monde scientifique, et essayer de comprendre son origine constitue même l'un des plus grands défis de la recherche en neurosciences depuis une vingtaine d'années, pour justement tenter de savoir comment une information accède à la conscience. Et la science dispose aujourd'hui d'outils pour observer les marqueurs biologiques de la conscience. Cette question passionnante est au cœur d'un ouvrage qui paraît aux éditions Odile Jacob, son titre Le Code de la Conscience. Et Stanislas Delanne, vous en êtes l'auteur. Bonjour à vous.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Vous êtes neuroscientifique, professeur au Collège de France à la chaire de psychologie cognitive expérimentale et puis directeur de cette unité INSERM-CEA de neuroimagerie cognitive à Neurospin. Alors c'est vrai que pendant très longtemps, vous l'expliquez, la question de l'origine de la conscience a eu très mauvaise réputation. Mais désormais, cette période semble révolue et vous parvenez même à l'étudier en laboratoire avec votre équipe. Il s'agit donc d'une science assez récente qui permet d'identifier la signature de la conscience et même d'en avoir élaboré une théorie. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot de conscience? Qu'avez-vous découvert exactement et à quoi sert cette étude? C'est ce que nous allons voir ensemble dans un instant, Stanislas Delanne, avec déjà beaucoup de questions qui arrivent sur franceinter.fr. Thème donc très intéressant pour les auditeurs également sur franceinter.fr et sur les réseaux avec le mot-clé, l'attaque. Et puis bien sûr, nous terminerons avec le quiz de la tête au carré en compagnie de Florence Porcel. Violaine Ballet est aux commandes de cette émission qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Philippe Hénarejos.
Bonjour.
Avant de plonger dans les mécanismes de la conscience, vous nous emmenez très loin dans une galaxie qui intéresse les astronomes.
Oui, je vous amène dans la galaxie M82 qui est située à 12 millions d'années-lumière. Alors dit comme ça,
ça paraît loin
M82, mais c'est l'une des plus proches galaxies de la Voie lactée qui est notre propre galaxie, celle dans laquelle nous nous trouvons. Cette galaxie est très intéressante pour les astronomes parce qu'elle est le siège d'un intense épisode de formation d'étoiles. Or, quand des étoiles se forment, parmi elles, il y en a qui sont très massives. Et le propre des étoiles massives, c'est d'avoir une vie très rapide, une poignée de millions d'années. Là aussi, ça peut paraître très long à notre échelle, mais c'est très court. Et elles finissent leur vie par une explosion qu'on appelle une supernova. Alors des supernovas, il y en a eu des tas dans M82. La dernière a d'ailleurs été observée le 22 janvier dernier. Vous voyez que ça ne remonte pas à très loin. Et c'est précisément en étudiant cette supernova que les astronomes ont découvert quelque chose qui remet en question ce qu'ils pensaient. Non loin de la supernova se trouve en effet une intense source de rayons X qu'ils connaissaient déjà. Elle est si intense qu'on pensait à un trou noir de 10 millions de fois la masse du Soleil.
Oui, mais un trou noir, ça n'est pas censé émettre aucun rayonnement?
Vous avez raison, un trou noir, ça n'émet rien. Mais l'environnement proche du trou noir, lui, est souvent très brillant, tout simplement parce que la matière, que ce soit du gaz, une étoile ou une planète ou des astéroïdes, quand elle s'approche du trou noir, elle est tiraillée et échauffée par les forces gravitationnelles dans des proportions telles qu'elle émet des rayons très énergétiques comme les rayons X. Eh bien, en pointant le satellite NuSTAR vers M82 pour essayer d'observer la dernière supernova, les astronomes ont capté les rayons X de ce prétendu trou noir de 10 millions de masses solaires. Et là, surprise, son émission pulse selon une période de 1,37 secondes. Or, un trou noir ne pulse jamais.
Alors, si ce n'est pas un trou noir, mais qu'est-ce que c'est?
Eh bien, c'est un pulsar. Autrement dit, une étoile à neutrons qui, en tournant très vite sur elle-même, par exemple, une fois toutes les 1,37 secondes, donne l'impression à l'observateur qu'elle pulse. La source des rayons X de M82 n'est donc pas un trou noir de 10 millions de masses solaires, mais un pulsar de la taille de Paris, dont on sait que la masse ne peut pas dépasser 3,2 fois celle du Soleil.
C'est théorique. Comment on a pu confondre justement avec un corps des millions de fois plus massif?
Eh bien parce que celui-ci rayonne autant de fois que l'environnement d'un trou noir de 10 millions de masses solaires. Alors par quel mécanisme? Eh bien, on ne le sait pas très bien encore, mais ce verdict est sans appel. Un objet qui pulse avec une aussi courte période ne peut être qu'une étoile à neutrons. C'est-à-dire, c'est quand même un résidu stellaire. C'est une étoile qui a explosé en supernova, mais qui n'est pas devenue un trou noir. C'est un astre hyper dense. Alors, cette découverte entraîne quand même un dommage collatéral.
Allons bon.
Ce sont les trous noirs de masse intermédiaire. Pour faire simple, ils sont compris entre quelques centaines et quelques millions de fois celle du Soleil. On pensait qu'ils étaient un lien entre les trous noirs stellaires, donc les cadavres stellaires issus d'explosion de supernova, et les trous noirs hypermassifs qui entrent les centres des galaxies qui font des milliards de masses solaires. Or, on n'en connaît qu'une poignée de ces trous noirs intermédiaires. Du moins, on pense en connaître une poignée. Alors, si jamais on s'aperçoit qu'ils pulsent aussi, tous les autres, la poignée là, leur existence pourrait être remise en cause. Alors cette histoire montre toute l'utilité d'observer avec des instruments sans cesse plus précis et sans cesse plus sensibles.
C'est exactement comme le cerveau d'ailleurs, Stanislas Dehaene. On fait souvent l'analogie.
Oui, on parle maintenant d'observatoire du cerveau et de la nécessité des grands instruments en neurosciences.
Voilà, on parle de neutrons et de neurones, ça dépend évidemment de la discipline. Avant de se retrouver la semaine prochaine, Philippe, vous avez une dernière info à nous donner.
Oui, je ne pouvais pas faire la chronique puisque ça n'est pas encore arrivé, mais dans 4 jours, je rappelle que le 19 octobre, une rencontre cosmique va avoir lieu. La comète Seeding Springs va venir frôler la planète Mars. Les deux astres seront à seulement 132 000 km l'un de l'autre. Ça peut paraître encore loin, encore une fois, mais c'est quand même très peu, c'est le tiers de la distance Terre-Lune. Oui. Et évidemment, on attend que toutes les sondes qui sont autour de Mars et sur Mars jouent leur rôle de reporter et nous envoient des photos. Je vous en parlerai peut-être la semaine prochaine.
Et on aura de belles images, j'en suis sûr, à montrer, par exemple dans les pages de Ciel et Espace. Merci beaucoup Philippe, à mercredi prochain.
À mercredi.
Dans un instant, nous vous emmenons dans les mécanismes de la pensée humaine à la rencontre de la conscience. Rien que ça, avec mon invité Stanislas Dehaene.
Je n'attendais rien, je n'attendais personne. Je posais mes mains au hasard des personnes. La peau facile et le cœur à la traîne. Des indociles, j'étais la reine. Je n'attendais rien, je n'attendais personne. Pendant les va-et-vient, je comptais les klaxons. Un jour, un soir, il a brisé ma glace. Sans le savoir, il a trouvé sa place. Bingo! Qui aurait pu dire qu'on volerait aussi haut? Qui aurait pu l'écrire? Ah ah. J'ai pas les clés pour la vie, mais je vais m'ouvrir avec lui. Personne. Tous les Parisiens me semblaient monotones. Avec son flair et sa forêt sauvage, il avait l'air de venir d'un autre âge. Je n'attendais rien, je n'attendais personne. J'ai plongé dans le bain où vont boire les lions. Et comme des fauves au coucher du soleil, le sommeil. Bingo! Qui aurait pu dire qu'on volerait aussi haut? Qui aurait pu l'écrire? Ah, ah. J'ai pas les clés pour la vie, mais je vais m'ouvrir avec lui.
Bingo, Jeanne Chéral sur France Inter.
La tête au carré.
Et c'est là où je veux en venir.
Au carré.
Je crois savoir où ils vont.
Sur France Inter.
Sur le chemin de la conscience, le code de la conscience. C'est donc un livre qui sort chez Odile Jacob et que signe mon invité, le neuroscientifique Stanislas Dehaene, plongé dans les mécanismes de la pensée cet après-midi avec vos messages qui arrivent déjà sur franceinter.fr et puis sur les réseaux avec le mot-clé l'attaque. Stanislas Dehaene, vous l'expliquez dans l'introduction du livre, hein, depuis plus de 20 ans maintenant, vous essayez de comprendre où se trouvent les bases biologiques de la conscience et vous écrivez que cette question sur l'origine de la conscience est aujourd'hui un des plus grands domaines de recherche scientifique en neurosciences.
Oui, parce que c'est un vrai défi. Hein. Pendant des années, on a considéré que c'était un problème inaccessible. Que c'était, en quelque sorte, le Graal du cerveau, de comprendre comment la pensée qui semble par nature immatériel peut émerger d'un circuit biologique matériel. Mmh. Puis on s'est rendu compte que le problème pouvait être attaqué de multiples manières et qu'en particulier il y avait un sens particulier, parce que la conscience est un mot très polysémique.
Mais on va en parler.
Il y a un sens qu'on peut vraiment amener en laboratoire, ouais. Celui de l'accès à la conscience d'une information.
Et donc on peut parler d'une science de la conscience aujourd'hui, une jeune science.
Une jeune science débutante, mais réelle. C'est pas seulement dans mon laboratoire. Il y a des dizaines de laboratoires dans le monde qui s'y intéressent. Il y a un grand congrès international qui a rassemblé 400 personnes. Ça commence à être quelque chose de très sérieux.
Mais cette question a eu mauvaise réputation. Vous l'expliquez aussi. Pendant assez longtemps, c'était presque un sujet tabou. Pourquoi ? Parce qu'il y avait trop de subjectivité autour de cette notion de conscience ?
Dès le début du XXe siècle, les behavioristes ont commencé à se méfier de l'introspection et de la subjectivité. L'idée était que si la psychologie doit être une science, elle doit rompre avec tout ce qui est subjectif, tout ce qui est introspectif. Ce ne sont pas des méthodes acceptables en science. Il faut mesurer, il faut quantifier. Et donc, ils ont évacué complètement le problème de la conscience au point qu'effectivement, c'était tabou.
Fallait même éviter d'utiliser le mot, c'est ça, quand vous avez commencé
Absolument. Et ça conduisait, à mon avis, à des erreurs scientifiques importantes, parce que, comme on le verra, la conscience, la prise de conscience correspond à un changement très important dans le traitement de l'information dans le cerveau. Donc, négliger ce phénomène, c'était négliger toute une part très importante du traitement cérébral.
Donc, ça a changé quoi ? Dans les années 80, à peu près, on s'est mis
vraiment... Oui, il y a eu quelques grands pionniers avant ça, par exemple...
Sans crainte
Oui, alors, sans crainte, je ne sais pas. Ça reste un sujet qui est polémique.
Et, pourquoi c'est pas,
certains scientifiques sont restés sur cette idée que c'était le sujet qu'on aborderait dans 50 ans, dans 100 ans, quand on aurait progressé sur les fondements même des neurosciences. Non, je crois que le phénomène maintenant est capturé par un certain nombre d'expériences minimales qui ne prétendent pas capturer tous les sens du mot conscience, mais qui réduisent le phénomène à quelque chose de tout à fait particulier, méticuleux, que l'on peut manipuler.
Ouais. Et les outils, évidemment, ont tout changé. Parce que aussi un moment, les années 80, où on a disposé d'une nouvelle technologie.
Voilà, il y a d'une part la technologie de la psychologie qui permet de créer, par exemple, des illusions visuelles avec un contrôle très fin sur les paramètres, et puis les technologies de l'imagerie cérébrale qui nous ont permis d'aller voir qu'est-ce que ça changeait dans le cerveau, de prendre conscience d'une information.
Alors concrètement, comment on peut faire de la conscience un objet de laboratoire aujourd'hui ? Vous mettez au point des tests, c'est ça, dans votre laboratoire, pour savoir si une personne ou non est consciente ?
Non, alors il faut distinguer la conscience au sens intransitif. Je suis conscient, je me lève, je réveille le matin et je prends conscience, je suis conscient. Mm-hmm. En principe, jusqu'à ce que peut-être j'ai un accident cérébral ou quelqu'un m'anesthésie, je perds conscience. Ça, c'est un premier sens intransitif. Voyez. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le sens transitif de la conscience, c'est-à-dire prendre conscience d'une information particulière. Lorsque vous lisez un livre, par exemple, il y a quelques mots dont vous prenez conscience, puis le reste de la page, à un instant donné, vous n'en avez pas conscience. Vous déplacez votre regard et ces mots vont être amené dans votre conscience. Donc en permanence, le cerveau est bombardé d'informations et ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui détermine et qu'est-ce que ça change qu'une information particulière devienne consciente alors que les autres, on peut montrer, sont traitées par le cerveau. Oui. Mais elles ne sont pas traitées jusqu'à un niveau conscient.
Oui, il y a de très belles images que vous utilisez justement dans votre livre. On pourrait presque parler d'une antichambre sur toutes les idées qui peuvent émerger dans le cerveau. On va en discuter avec vous. Sur quel type d'application ça peut aboutir justement le fait de s'intéresser à la conscience aujourd'hui concrètement en laboratoire ?
C'est d'abord un grand problème scientifique, mais c'est vrai que les applications médicales, on les a en tête. Et mon laboratoire travaille énormément avec celui de Lionel Nakache à la Salpêtrière, qui s'intéresse aux patients qui ont perdu conscience, et qui sont tombés dans le coma ou qui sont tombés dans un état végétatif. Et il faut savoir que ce sont des questions médicales très difficiles parce que le diagnostic de ces états n'est pas encore très bien fait. Il peut y avoir des personnes qui sont encore conscientes, mais qui ne sont pas capables de le manifester par des gestes à l'extérieur. Alors, arriver à diagnostiquer sur une base strictement objective, par exemple à l'aide d'un électroencéphalogramme, si une personne a conservé une part de sa conscience, c'est un problème évidemment très important sur le plan éthique, sur le plan clinique, sur le plan pratique aussi.
Alors, il y a une exposition en ce moment, Stanislas Dehaene, qui vous tient à cœur. C'est à la Cité des sciences et de l'industrie. C'est Cerveau, l'expo neuroludique. Et on parle entre autres de conscience.
Oui, je suis content qu'on en parle parce que si les auditeurs veulent expérimenter sur eux-mêmes certains de ces phénomènes de conscience...
Il y a des tests.
Il y a des tests là-bas. On peut expérimenter des images. Par exemple, les images rivales. On vous présente une image à un œil, une autre image à l'autre œil. Et vous allez voir que vous ne pouvez pas prendre conscience des deux images en même temps, une seule accède à la conscience. Donc c'est un très bon exemple où une information accède, l'autre pas. Mais on peut aussi sortir de son corps.
Et ah bon oui. Là, comment vous procédez?
Il y a une célèbre expérience qu'on a mis en œuvre grâce aux techniciens de la cité qui ont fait un travail vraiment formidable. Et il y a une main en caoutchouc et par une manipulation très simple, on arrive à convaincre le cerveau que cette main en caoutchouc appartient à votre corps, que c'est devenu votre main. Mm-hmm. Alors que votre vraie main, par contre, non. Voyez. La construction par le cerveau de l'image du corps fait partie de la construction de la conscience et on peut la manipuler.
Donc cette exposition, à partir de quel âge d'ailleurs on peut emmener ses enfants pour
à partir de, je sais pas, 8-10 ans.
Aller explorer le cerveau.
Hein, c'est très ludique, hein. On peut toucher, on a vraiment tenu à faire une exposition très pratique. On touche le cerveau, on le manipule, on le démonte, on joue avec son propre cerveau. Notre mot d'ordre, c'était venez avec votre cerveau. En principe, tout le monde vient avec son cerveau.
En principe, donc, pas toujours. Mais...
Tout le monde peut jouer avec son cerveau.
C'est ce que vous faites finalement en laboratoire, disséquer le cerveau dans tous les sens.
Hein. En général, on demande aux gens de venir avec leur cerveau
pour
et
essayer
ensuite,
de le connaître.
On leur montre.
Et puis, il y a un livre qui paraît aux éditions de La Martinière et qui reprend justement, c'est le catalogue de cette exposition, Cerveau Expo Neuroludique. Je crois qu'on a un petit moment pour aller la voir.
Ah oui, c'est une exposition permanente, donc au moins 10 ans.
Donc, elle va rester à la cité. Alors, la conscience, les questions des auditeurs. Louison vous pose une question toute simple. Il y a 5 mots. Quand est apparue la conscience? Point d'interrogation en plus.
Une toute petite
voilà,
question.
Voilà, petite question. Et bah là, il faut vous débrouiller avec ça, Stanislas Dehaene. À quel moment la conscience est apparue? On peut prendre la question d'ailleurs de différentes façons. Hein.
Oui, alors, il faut, à mon avis, commencer par étudier la conscience chez l'homme, bien comprendre quelles architectures du cerveau permettent de prendre conscience d'une information. Et ensuite, on pourra redescendre chez l'animal, l'animal qui a plus de difficultés pour rapporter ce qu'il perçoit ou pas, et aller voir si un singe, une souris, un dauphin ont des éléments de conscience. Mm-hmm. Cette recherche commence seulement. Hein. Mais elle est faisable. Par exemple, les animaux peuvent rapporter. Et lorsqu'on les soumet à ces images rivales dont je parlais une seconde, on présente une image à un œil, une autre image à un autre œil, un singe peut tout à fait, par exemple, être capable de rapporter, je vois le visage, je ne le vois plus. Je le vois le visage, je ne le vois plus. Avec une manette, par exemple, s'il a été entraîné. Et par ce biais-là, on montre que les animaux ont le même genre d'illusion que nous, au moins les autres primates. Et certainement également les autres mammifères. Voilà. Donc la conscience a dû apparaître il y a très longtemps dans l'évolution, pour une raison qui reste encore à déterminer. Mais dans le livre, j'explique que le code de la conscience a sans doute une raison d'être. Il y a des calculs qui sont rendus possibles par l'architecture de la conscience qui ne seraient pas possibles autrement. Donc il y a une vraie réelle raison dans l'évolution pour l'apparition de la conscience.
Le primate, enfin le singe en l'occurrence, est l'animal le plus intéressant à étudier pour le comparer avec l'homme sur cette question-là, pour savoir si la conscience est le propre de l'homme ou pas?
Bien sûr, parce que c'est le plus proche de nous. Mais on peut aussi remonter très très loin. Il y a des expériences très intéressantes qui sont faites chez l'abeille, par exemple, ou chez la fourmi, qui montrent des comportements d'une extraordinaire complexité. Une abeille est capable de comprendre, par exemple, le concept de pareil et de différent.
Oui.
Est-ce que c'est conscient ou pas? Je crois qu'on n'a pas encore la réponse, mais elle est capable d'abstraction élaborée.
Et de pouvoir montrer à ses congénères le chemin à suivre pour retrouver le chemin d'une fleur, par exemple.
Oui, il y a une sorte de langage, avec une petite danse, mais qui est je ne sais pas si on peut vraiment répondre à cette question, qui est probablement plus de l'ordre du réflexe, d'une sorte d'évolution d'un système très particulier qui n'a pas la flexibilité du langage humain.
Karl demande sur Twitter, est-ce que la conscience ne serait pas la version scientifique au fond de l'âme?
Oui, moi je crois que c'est effectivement quelque part la bonne manière de poser le problème. Vous savez que Descartes a été un des premiers à poser le problème et on l'accuse aujourd'hui, avec plusieurs siècles de recul, de nous avoir induit dans la mauvaise direction en proposant un dualisme. C'est-à-dire que l'âme avait une substance particulière, différente de la substance du corps. Immatériel. Mais on oublie que Descartes lui-même essayait de pousser le matérialisme dans ses retranchements. Si on lit vraiment Descartes, il a vraiment été d'un matérialisme extraordinaire. Il a proposé que la plupart des fonctions du cerveau permettaient de comprendre les fonctions de l'âme. Donc la mémoire, la perception, les actions dérivaient tous de la machine du corps. C'est comme ça qu'il décrivait les choses. Aujourd'hui, on voit que même ce que nous appelons l'âme, la personne humaine, peut, dans une très grande mesure, effectivement, être ramenée au fonctionnement de réseaux cérébraux.
Stanislas Dehaene, qu'est-ce qui se passe exactement dans notre cerveau lorsque nous prenons conscience de quelque chose? Vous parliez tout à l'heure de ce cerveau qui est bombardé d'informations à tout moment. Alors, c'est le moment, justement, de nous expliquer.
Alors, il faut qu'on parle de la manière dont on fait une expérience. On va flasher une image ou un mot, par exemple, sur un écran, et on va s'arranger pour se situer juste au seuil de perception. De sorte que la personne nous dise une fois sur deux, je l'ai vu, je ne l'ai pas vu. On fait confiance, c'est elle qui définit subjectivement ce qu'elle a vu ou ce qu'elle n'a pas vu. Donc vraiment, la subjectivité joue un rôle très important. Mais on cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe dans son cerveau en même temps qu'elle dit « j'ai vu ».
Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs ? Elle a un bonnet sur la tête avec des électrodes.
Suivant l'expérience, on va lui mettre des électrodes sur la tête. C'est ce qu'on appelle l'EEG, l'électroencéphalogramme. Ou bien on va l'allonger dans une IRM. Ou bien, et ce sont des données extrêmement précieuses, certains patients vont avoir des électrodes situées littéralement dans le cerveau parce qu'ils sont épileptiques et que pour explorer leur épilepsie, on place des électrodes dans leur cerveau. Alors en quelque sorte, le scientifique, avec la permission du patient, profite de ces enregistrements. Mais donc dans tous ces cas, on a accès à l'activité du cerveau. Et que voit-on ? Eh bien, on voit que pendant à peu près un tiers de seconde, les images conscientes et les images non conscientes ont le même décours temporel dans le cerveau. Elles suivent le même parcours. Elles passent par les aires visuelles. Donc le cortex visuel peut être très fortement activé alors qu'on n'a rien vu. Elles peuvent aller assez loin. Le sens d'un mot peut être activé alors qu'on n'a rien vu. Donc, vous voyez, l'étendue du traitement non conscient dans le cerveau, c'est une des premières découvertes, à mon avis, très importante. Pratiquement chacune des étapes de traitement peut être faite de façon non consciente.
Non conscient, inconscient, on pourrait mettre le même mot.
Je préfère non conscient parce que c'est plus neutre, ça évite d'évoquer trop de théories anciennes.
Très bien.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe au moment de la prise de conscience ? Au bout d'à peu près un tiers de seconde, on voit ce qu'on a appelé l'embrasement conscient. C'est-à-dire que tout un réseau du cerveau se met à entrer en activité beaucoup plus fortement et soudainement lorsque la personne dit « j'ai vu ». Et si elle dit « je n'ai pas vu », ce réseau, au contraire, va s'éteindre gentiment et au bout d'une demi-seconde, une seconde, ne va plus avoir d'activité. Donc il y a une espèce de bifurcation, ce qu'on appelle aussi en physique une transition de phase. Le cerveau change d'état. Et c'est pour ça que la conscience correspond à un phénomène majeur, macroscopique dans le cerveau. C'est un gros changement d'état du cerveau. Alors on le voit de plusieurs manières, ce que j'appelle les signatures de la conscience. Oui. L'activité électrique s'embrase. Un réseau particulier qui concerne les aires supérieures du cerveau, le cortex pariétal, le cortex préfrontal, va s'allumer de façon synchrone. Et toutes ces aires vont être en dialogue les unes avec les autres. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'elles s'échangent de l'information. Elles se synchronisent. Et elles codent toutes pour le même objet. Il y a une sorte de bascule de plusieurs régions qui sont distantes dans le cerveau, à plusieurs centimètres de distance, qui toutes ensemble vont se mettre à coder pour le même objet mental.
Ça, c'est la preuve absolue de l'état de conscience, au fond, ce que vous enregistrez, ce que vous venez de nous décrire parfaitement, Stanislas Dehaan, c'est vraiment la signature de la conscience.
C'est l'accès à la conscience qui a plusieurs signatures. Alors, on a découvert qu'un état cérébral pouvait être vu de plusieurs manières différentes. Vous voyez, un peu comme les fameux scientifiques qui tâtent un éléphant et ont tous vu une partie différente de l'éléphant. On en est à peu près là. On a 4 ou 5 signatures dans des expériences différentes, mais la plus manifeste d'entre elles, c'est cette espèce de transition non linéaire qui a été vue également au niveau neuronal. Si vous enregistrez des neurones, c'est des données très rares là encore, mais chez l'homme, dans des régions comme le cortex temporal antérieur, vous allez voir certains neurones qui ne vont décharger que pour une personne donnée, par exemple si vous voyez Bill Clinton, et que si vous le voyez consciemment, si la même image est présentée mais votre attention était détournée ou elle a été masquée, vous n'avez pas vu, ces neurones ne vont pas s'allumer. Donc ces neurones constituent un code de la conscience.
Alors Stanislas Dehaan, on va proposer aux auditeurs de faire une petite expérience puisqu'on va faire une pause dans un instant. On a mis sur le site de la Tête au Carré une vidéo. Alors il ne faut pas évidemment décrire ce qui se passe totalement dans la vidéo, mais vous pouvez quand même nous en expliquer le principe pour que les auditeurs puissent jouer et surtout leur demander de regarder ce qu'il faut pour faire un test autour de la conscience.
Alors il s'agit de compter, je crois, les passes d'une équipe qui joue au basket. Essayez de vous concentrer très attentivement sur cette tâche.
Voilà. Et uniquement sur cette tâche, de compter les passes des joueurs.
Il s'agit de compter les passes que fait l'équipe blanche, qui est une équipe qui porte des t-shirts blancs dans cette vidéo. Voilà. Et on compte combien de passes font les joueurs. Alors, on se retrouve dans quelques minutes.
Cette vidéo donc est sur le site de la Tête au Carré. Vous faites franceinter.fr. Vous regardez cette vidéo peut-être une seule fois, puisqu'on la décrira ensuite. Et surtout, on va apprendre aux auditeurs ce qu'ils auraient dû voir et qu'ils verront ensuite, mais ils risquent d'être assez surpris. Vous le faites, franceinter.fr, et on se retrouve dans un instant. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high tone places. Liz Taylor's
not his time, and even Lana Turner's smile is something he can't see. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me. Baby, my baby don't care for shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high tone places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile is something he can't see. Is something he can see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares.
Voilà sa version à elle de My Baby Just Cares For Me, Olivia Rouy sur France Inter.
La tête carrée sur France Inter.
Stanislas Dehaene, Le code de la conscience, c'est chez Odile Jacob. Ce livre sort et nous parlons justement de ce thème passionnant, de cette science nouvelle autour donc de l'accès à la conscience. En ai-je trop dit tout à l'heure, Stanislas Dehaene, en invitant les auditeurs?
Je ne sais pas si les auditeurs ont fait le test.
Alors, ce test est assez connu maintenant quand même. C'est pour aussi parler de la cécité temporaire. Alors, parlez-nous de ça parce que c'est absolument passionnant.
Oui, c'est un des paradigmes magnifiques que nous avons pour rendre des informations invisibles. Alors là, les personnes sont allées voir la vidéo. On voit des joueurs de basket en train de se passer la balle. On fait très attention à l'équipe blanche. C'est très important. L'équipe qui porte des t-shirts blancs. Et
le but est de compter le nombre de passes.
On compte le nombre de passes. Les gens terminent en disant j'en ai vu 14. Bon, peu importe. On pose la question. Et le gorille ? Les gens vous regardent. Qu'est-ce que ça veut dire ? On rejoue la vidéo et j'invite les gens qui ont fait le test à rejouer la vidéo et à regarder. Et en plein milieu du film, il y avait une personne déguisée en gorille.
Pas discret du tout.
Pas du tout discret, qui est passée en plein milieu de la vidéo, juste sous les yeux. On peut montrer que les yeux des personnes se posent sur cet objet. Oui. Mais comme il est hors sujet, il ne fait pas partie de ce qu'on demande aux gens de faire. Et en particulier, il est noir. Bien qu'il batte sa poitrine,
c'est incroyable.
Il est visible. Mais on ne le voit pas. Et à peu près entre 50 et 80% des gens, selon les conditions, ne le voient pas du tout.
Je confirme. Voilà. Alors cette vidéo maintenant est assez bien connue. Et on a fait une seconde version avec là un gorille.
Oui, alors ça c'est drôle parce que le même auteur qui a créé cette illusion, qui est un psychologue célèbre, a mis une deuxième vidéo en ligne où tout le monde s'attend, parce que tout le monde connaît le truc, à voir le gorille. Et à la fin de la vidéo, il demande « Mais avez-vous vu autre chose ?» Et on rembobine le film, on s'aperçoit que 6 éléments de la scène ont changé. Les rideaux, les habits, etc. Et on n'a rien vu non plus. Donc,
exactement.
Il faut se rendre compte que nous sommes inconscients de la plupart de ce qui nous entoure.
Alors, qu'est-ce que ça dit, justement, de cette question de la conscience là ?
C'est ça que ça signifie.
Cette cécité.
Notre espace de travail conscient, puisque c'est le concept qu'on a introduit avec Jean-Pierre Changeux, est à capacité très limitée. C'est-à-dire que nous pouvons prendre conscience d'une information à un instant donné, mais ça nous empêche de prendre simultanément conscience d'autres aspects du
monde
extérieur.
Une seule information à la fois ?
Une information qui peut être intégrative. Ça peut être le sens d'une phrase, par exemple. Mais si on pense au sens d'une phrase, on ne peut pas en même temps prendre conscience de la couleur du tapis. Et en particulier, c'est bien connu, on ne peut pas téléphoner et se concentrer sur le message tout en ayant conscience du freinage de la voiture qui est devant soi.
Et pourtant, on a le sentiment de pouvoir le faire.
Alors, c'est une illusion. Et il y a une illusion très intéressante. Si vous présentez deux éléments d'information A suivi de B en même temps, ou quasiment en même temps, bien sûr, la personne dit « Oui, oui, j'ai vu A et j'ai vu B ». Mais ce dont elle ne se rend pas compte, c'est que la conscience de B a attendu très longuement.
Oui.
Et tout ça parce que l'objet a occupé l'espace de travail conscient. Donc évidemment, à la fin, on finit par prendre conscience des informations, mais avec un délai considérable. Le délai est au moins, on l'a dit tout à l'heure, d'un tiers de seconde, mais si vous êtes distrait, il peut être encore beaucoup, beaucoup plus grand.
Alors, il y a une image que vous employez, que j'aime bien justement dans cet ouvrage. Vous comparez la conscience à une forteresse et vous dites qu'elle possède un chemin d'accès si étroit qu'il force donc ce chemin, les images, à entrer en compétition et l'accès à la conscience impose donc un goulot d'étranglement.
C'est le terme exact qui est utilisé en psychologie.
Ça correspond à ce que vous nous décrivez là, au fond.
C'est exactement ça.
Avec une seule idée pouvant émerger.
Alors que c'est un paradoxe un petit peu, parce que le cerveau fonctionne en parallèle. Nos 100 milliards de neurones corticaux fonctionnent tous en parallèle. Toutes les aires du cerveau fonctionnent en parallèle. Mais à un certain niveau, au niveau le plus élevé de cet espace de travail conscient, eh bien, il n'y a plus qu'un seul objet de pensée qui peut entrer. Il faut simplement se rendre compte que cet objet de pensée lui-même est formé d'une assemblée de neurones. C'est ça le code de la conscience. C'est une assemblée de neurones distribuée dans plusieurs régions du cerveau qui toutes se mettent à coder pour différentes facettes de l'objet auquel on est en train de penser.
Alors qu'est-ce qui se passe avec les autres idées qui sont là quasiment dans l'antichambre en train d'attendre avant ce goulot d'étranglement? Est-ce qu'elles vont être oubliées totalement ou est-ce qu'elles vont pouvoir émerger à un moment ou à un autre? Comment ça se passe?
Eh bien oui, elles sont en train d'attendre. Alors on parle d'un buffer. Il y a plusieurs buffers dans le cerveau. Et dans ce buffer, si elles attendent un petit peu, elles vont pouvoir être récupérées avec du retard, comme je viens de le dire. Mais si elles attendent trop longtemps, elles vont être tout simplement effacées de la conscience. Et on n'en prendra jamais conscience.
À tout jamais ?
À tout jamais. Et donc, c'est ce qu'on appelle le clignement attentionnel ou la cécité attentionnelle dont on vient de parler avec le gorille. Alors, à tout jamais...
C'est là qu'on a envie de vous parler d'inconscient quand même, Stanislas.
Bien sûr, il y a beaucoup d'inconscient dans le cerveau. Ouais. Je pense que c'est quand même le grand résultat de ces recherches. Et en particulier, ces informations peuvent quand même modifier nos circuits cérébraux un tout petit peu. Moins facilement que si elles étaient conscientes. Donc l'apprentissage inconscient est très limité, mais il existe. Et on va pouvoir, par exemple, avoir des effets de légère préférence pour des informations dont on n'a jamais eu conscience, mais qui ont été rendues familières à notre cerveau, de cette manière-là.
Daniel demande, avez-vous le cran d'aller plus loin? Est-ce que vous vous intéressez à ce qui a conscience de la conscience? Est-ce que c'est l'introspection, tout simplement?
Ah oui, oui, c'est une très très bonne question.
Avoir conscience de la conscience.
Lorsqu'on regarde la conscience d'accès, l'accès à la conscience, dont on parle depuis le départ, c'est un des volets de la conscience. Mais le deuxième, c'est la conscience de soi. Avoir conscience que je suis conscient, avoir conscience d'avoir fait une erreur.
Ouais.
Alors ce sont des choses qu'on étudie aussi au laboratoire, même si c'est un deuxième niveau. Hein. Et on peut montrer effectivement qu'il existe des architectures de l'introspection, des architectures de l'introspection. Et en particulier le cortex frontal polaire, qui est tout à fait à l'avant du cerveau, est une région qui est responsable de cette espèce de regard sur soi-même et serait une région qui est particulièrement développée dans l'espèce humaine. Alors avec la conscience de soi, on commence à toucher à quelque chose qui est vraiment...
Le propre de l'homme
Pas le propre de l'homme, mais plus développé dans l'espèce humaine. Oui. Mais même un singe macaque a quand même une certaine conscience de ses erreurs, par exemple. Ou ce qu'on appelle le sens de la confiance en soi. C'est-à-dire, je sais que, là j'ai beaucoup d'informations, ou je sais que j'en ai pas assez, que je vais peut-être me tromper. Voyez. Alors ça, un singe peut l'avoir. Donc une certaine notion de gradation dans ses propres connaissances. Mais pas... Chez le singe, le même échafaudage de pensée qui nous permet de penser que ce que je sais moi, vous ne le savez pas, je pense que tu penses que je pense, tout ça, ce sont des états de plus haut niveau qui semblent entièrement propres à l'espèce humaine.
Et qui sont liés directement à la taille de notre cerveau, à nos connexions neuronales
Certainement pas à la taille, mais beaucoup plus à l'architecture. Nous avons des aires du cerveau social, c'est-à-dire des aires qui nous permettent de représenter les pensées des autres. Et probablement que dans ces régions, on représente, comme l'a dit Ricoeur d'ailleurs, nous-mêmes comme un autre. Dans mon répertoire de personnes, il y a moi-même. Et j'apprends des choses sur moi-même et je complète mon répertoire de pensées sur moi-même.
Frédéric vous envoie ce message à Stanislas Dehaene concernant les états végétatifs. Le test permettant de détecter un état de conscience, test local global par électroencéphalogramme, je crois, décrit et donc dans votre livre. Est-ce que c'est réalisable dans tous les services de neurologie ou de réanimation? Et est-ce qu'on peut en faire un protocole d'évaluation de l'état de conscience? Alors expliquez-nous d'abord.
Il faut qu'on explique un tout petit peu. Donc après avoir trouvé cet embrasement conscient chez les personnes normales, avec un cerveau intact, on est allé voir si ça pouvait servir de diagnostic de la présence d'une conscience résiduelle chez les patients atteints de lésions cérébrales, et notamment les personnes qui récupèrent d'un coma. Ce qu'on appelle l'état végétatif, c'est un état qui est encore assez mystérieux, où les personnes qui sont en train de récupérer d'un coma récupèrent le cycle veille-sommeil, donc elles s'éveillent le matin, elles s'endorment le soir, mais dans l'intervalle, elles restent absolument passives, sans activité volontaire, sans intention attention sans réponse aux questions du clinicien, par exemple. Et donc, on a du mal à savoir si elles sont conscientes ou pas. On pense que la majorité d'entre elles sont non conscientes, mais il est possible que certaines d'entre elles soient ce qu'on appelle locked-in. On se souvient de Jean-Dominique Bobby, le scaphandre et le papillon, c'est-à-dire coincé avec une conscience intacte, mais une incapacité de l'exprimer à l'extérieur. Alors, on a été voir nos fameuses signatures de la conscience et on a vu qu'effectivement, un test qui mesure cet embrasement conscient, qui est le test local global qui est mentionné par l'auditeur, effectivement, permet dans une grande mesure de faire le tri entre les patients qui ont conservé une conscience et qui sont, par exemple, ce qu'on appelle minimalement conscients, c'est-à-dire parfois conscients, et puis d'autres qui ne le sont plus du tout. Et ce test peut être effectivement utilisé facilement en clinique.
C'était la question de Frédéric, donc en réanimation en particulier.
On travaille en particulier pour essayer de développer ça sous forme d'un outil très concret, un petit boîtier, parce que le EEG, c'est très facile à mesurer, quelques électrodes sur la tête. Et donc, mettre à disposition des cliniciens un petit boîtier qui permettrait de suivre en permanence des indices de conscience.
Comment fonctionne la conscience durant le sommeil, demande Vincent qui nous écoute à Berlin et qu'on salue chaleureusement.
Oui, c'est une question...
Est-ce qu'elle est en sommeil ou pas, justement?
Une question qui n'est pas encore totalement résolue, parce que dans le sommeil profond, bon, il y a clairement une fragmentation des réseaux qui, dans l'état de veille, soutiennent la conscience. Et on est tous d'accord avec l'idée que lorsqu'on s'endort, on perd conscience, dans une certaine mesure. En tout cas, on perd conscience du monde extérieur. Mais après, il y a la question compliquée du rêve. Et dans la phase en particulier de sommeil paradoxal, il y a des phases de conscience très intenses. C'est une conscience qui est tournée sur la mémoire plutôt que tournée vers le monde extérieur. On n'a pas conscience des bruits du monde extérieur, par exemple, mais on a conscience d'un flux particulier de pensée, ça peut être même extrêmement vif. Alors, il semble bien que les aires qu'on appelle de l'espace de travail conscient restent actives dans cet état-là. Et il y a même une expérience fascinante qui a été publiée récemment par nos collègues qui montre que l'on peut mesurer l'activité cérébrale, réveiller la personne, lui demander à quoi vous pensiez, quel était le contenu de votre rêve. D'abord, rêviez-vous et puis quel était le contenu? Est-ce qu'il y avait des personnes, par exemple, ou est-ce que vous étiez dans des lieux particuliers? Et on arrive à mettre en corrélation les images d'activité cérébrale avec les pensées des gens. On arrive à faire un décodeur de la pensée des gens sur la base de leur état d'activité cérébrale. Ce qui est donc bien une preuve qu'il y a cette correspondance entre les états d'activité de ces réseaux cérébraux et la pensée de la personne.
Stanislas Zeun, beaucoup d'auditeurs sont allés voir la vidéo que nous avions décrite tout à l'heure. Emmanuel nous dit, si on a vu le gorille, ça veut dire quoi? Beaucoup de personnes ont vu le gorille. C'est peut-être de ma faute d'ailleurs, non?
Je pense que vous avez un peu vendu la mèche.
Je les ai mis sur la voix.
En laissant entendre qu'il y avait autre chose à voir.
Voilà.
Mais ce qui est vrai aussi, c'est que quand on est un peu distrait, on voit plus facilement le gorille. Et quand on écoute de la musique, par exemple, l'espace de travail, quelque part, est plus ouvert et on peut plus facilement prendre conscience d'informations externes qui ne sont pas absolument indispensables à notre flux de pensée actuel. Et être trop concentré, quelque part, fait perdre plus conscience. On a tous en tête le savant cosinus qui est plongé dans ses mathématiques.
Ludovic nous dit sur franceinter.fr, en méditant après certains temps de concentration, je peux focaliser mon attention sur certaines zones de mon cerveau, je ne vois rien, je ne pense à rien. Est-ce que ça pourrait se voir en IRM? Et de quel niveau ou de quel type de conscience s'agit-il?
Je n'ai pas travaillé personnellement sur ces états de méditation, mais il faut quand même que les auditeurs sachent que c'est un domaine actif de recherche et tout à fait naturel. C'est-à-dire la méditation entraîne certaines aires du cerveau. Elle est même considérée comme un entraînement de ce qu'on appelle le contrôle exécutif. C'est-à-dire que les personnes qui pratiquent la méditation, d'une certaine manière, arrivent mieux à contrôler leur système cérébral et à inhiber certaines actions involontaires, exactement comme le dit l'auditeur.
Christelle demande comment on distingue la conscience de l'attention.
Ah, ça c'est un point très important et sur lequel on a beaucoup progressé. La conscience n'est pas la même chose que l'attention. L'attention, c'est le filtre du cerveau. C'est tout ce qui nous permet de privilégier une information par rapport à une autre parce qu'elle est plus importante pour nous, par exemple, à un instant donné. Et ce filtre opère très largement de façon non consciente. Nous pouvons, par exemple, prêter attention à une information inconsciente, montrer qu'elle a été privilégiée par le cerveau, mais pourtant elle n'a pas accédé à la conscience. Voyez. Donc l'attention fait partie des systèmes inconscients du cerveau. C'est normal. Imaginez comment serait notre état cérébral si à chaque fois qu'on devait prêter attention à un objet particulier, on devait le faire avec toutes les ressources de notre conscience, c'est-à-dire regarder chacun des objets pour en choisir un. ça demande un effort considérable, eh bien le cerveau a transféré ce filtre vers des opérateurs non conscients.
Stanislas Delaney, il nous reste très peu de temps, mais il faut quand même évoquer un mot de la conscience chez le bébé, parce que c'est aussi un thème qui vous intéresse. À quel moment on peut observer sa manifestation?
À partir du moment où on a des signatures de la conscience, on peut aller voir. C'est déjà un message très positif, je pense. Ce n'est plus une question inaccessible à la recherche scientifique. Alors, on est allé voir avec mon épouse et avec Sid Quider de l'École normale supérieure, et on a vu que les étapes non conscientes suivies de cet embrasement conscient sont présentes chez le bébé.
Comme chez l'adulte, alors.
En tout cas, on est descendu jusqu'à 5 mois. Hein, c'est pas encore les étapes les plus jeunes.
Qu'est-ce qui différencie l'adulte du bébé?
Ce qui est très clair, c'est que cet embrasement conscient est ralenti. Il faut 3 fois plus de temps
au bébé.
Et donc, quelque part, un bébé est 3 fois plus en retard que nous sur le monde extérieur. Et ça correspond bien, je crois, à l'interaction avec le bébé qui, souvent, met un long délai avant soudain, par exemple, d'éclater en un sourire merveilleux. Voyez. La conscience est là. Le système conscient, les connexions sont là, l'espace de travail est là, mais sa latence de réaction est beaucoup plus grande parce que les faisceaux de fibres du cerveau qui permettent ces communications à longue distance dans le cerveau ne sont pas encore parfaitement myélinisés, c'est-à-dire ne transmettent pas l'information à la même vitesse que chez l'adulte.
Donc c'est lié à la maturation de son cerveau de bébé.
Et particulièrement de ses connexions. Ouais. Voilà. Les connexions à longue distance, les connexions dans le cortex jouent un rôle fondamental dans l'accès à la conscience.
Vous abordez même la possibilité de simuler la conscience sur un ordinateur et de créer des machines qui deviendraient conscientes d'elles-mêmes. Mais ça, je laisse aux auditeurs et aux lecteurs la surprise donc de ces lignes et de ce chapitre. Stanislas Dehaene, donc le livre vient de paraître. Ça s'appelle Le Code de la conscience et c'est sorti aux éditions Odile Jacob. Et donc l'exposition également sur le cerveau en ce moment à la Cité des Sciences. Merci beaucoup d'être venu dans la Tête au Carré.
Merci. I make me see it till it burn, burn, burn. Oh, oh. Pass the chalice pan the right. I make me see it till it burn, burn, burn. Oh, oh. We have to step up. Take a look now, man. Nice. Give me the high grade. I make me burn it. Me I them get ready. Babylon a fret fret. Want to get me go a station for one a little height of split. Make it burn, make it burn. Make me burn it. Make it burn, make it burn. Make it burn, make it burn. Make it burn, make it burn. Pass the chalice bandera. I make we sip it till it burn, burn, burn. Yeah, oh, oh. Pass the chalice bandera. I make we sip it till it burn, burn, burn. Yeah, oh. I'm so quick to call it no man. You don't like it? You don't like it. Sitting in my in the evening vibes, taking a rest now, from the day's tribulation. I am a rasta, stepping out of Babylon, going to Mount Zion, to meet the higher one. Pass the chalice bandera, Rastaman, make me sip it till it burn, burn, burn. Yeah, yo, my brethren. Pass the chalice bandera, make me sip it till it burn, burn, burn. Oh, oh, yeah, it's a quick. I make we sip it till it burn, burn, burn. Oh, oh, yeah.
Make it burn, Horace Andy à l'instant sur France Inter. Et c'est l'heure de booster nos connaissances scientifiques avec le quiz de la Tête au Carré. Florence Porcelli, bien sûr à mes côtés, bonjour.
Je suis là, bonjour Mathieu.
Florence, vous nous présentez nos deux nouveaux candidats.
Mais oui, bonjour Sophie, bonjour Massinissa.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux. Sophie, vous habitez à Vitry-sur-Seine.
Oui.
Et je vois que vous êtes ingénieure de recherche chez EDF.
Voilà.
Qu'est-ce que vous cherchez exactement dans ce domaine ?
Eh bien, en fait, je suis plutôt dans le domaine de la thermique, appliquée donc à la production d'énergie, d'électricité en particulier.
Bien. Donc, vous avez fait des études scientifiques pour ce job ?
Oui. Mais bon, je préfère pas trop le dire parce que si je sers au jeu...
Alors, on en reparlera à la fin.
Voilà.
Massinissa, vous avez un très joli prénom.
Je vous remercie.
Qui est de quelle origine ?
C'est un vieux prénom berbère, qui date de l'Antiquité, et qui a disparu pendant un moment, qui est réutilisé à nouveau depuis une trentaine, quarantaine d'années en Kabylie.
Et vous habitez à Paris ?
Exact.
Et vous êtes un homme du web, hein, c'est ça.
Ça.
Chef de projet web.
Exactement.
Alors nous avons bien sûr des cadeaux à vous offrir, Florence.
Mais oui, et notamment la boîte de jeux de la Tête au Carré, des éditions Marabout, et le DVD La Valse des Continents 2 chez Arte Éditions.
Sophie Massinissa, on est ravis de jouer avec vous. Et si vous êtes prêts, on peut commencer avec la question d'actualité. La semaine dernière, la direction sanitaire vétérinaire de Roumanie, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, a annoncé la mort de deux spécimens d'animaux récemment réintroduits dans les Carpates. De quel animal s'agit-il ? Vous avez 30 secondes. Non. Et ça n'est pas le loup, Sophie.
Un ours ?
Non.
Non plus.
Dans les Carpates ?
Oui, dans les Carpates. Alors, des animaux récemment réintroduits dans cette région.
Des pandas.
Pas en Roumanie.
Non. Le panda de Roumanie, non. C'est bien tenté, Massinissa, mais ça n'est pas ça. Alors, c'est un animal qu'on peut trouver en Europe, comme en Amérique, d'ailleurs. D'ailleurs, il fait plutôt penser à l'Amérique.
Amérique, oui.
Un cheval sauvage.
Non.
Caribou.
Eh non, ça n'était pas un caribou non plus, il s'agissait d'un bison.
Eh oui.
Oh là là, oui.
Qu'est-ce qui s'est passé, Florence, avec ces bisons ?
En fait, 17 bisons d'Europe, donc venus de parcs animaliers, avaient été réintroduits en mai dernier dans les Carpates roumaines, mais deux d'entre eux ont été retrouvés morts, alors sans doute de la maladie de la langue bleue, qui est spécifique à cette espèce. Il n'y aurait plus que 3400 bisons vivant en liberté ou en semi-liberté aujourd'hui en Europe, à cause de la chasse et de la déforestation.
Et en Europe, on a affaire à des bisons des forêts,
plutôt.
Et des plaines en Amérique. Voilà, donc 0-0 pour l'instant, mais vous allez vous rattraper, j'en suis sûr. Sophie Massinissa, voici les questions de rapidité. Elles sont au nombre de 7, en ordre croissant de difficulté. N'hésitez pas, lorsque vous n'avez pas la réponse, à nous demander de passer à la question suivante. Nous le ferons avec plaisir. C'est parti, 1 minute 30.
Oui.
Allez, on y va. Qu'est-ce qui se déplace à environ 300 000 km par seconde dans le vide ?
La vitesse de la lumière.
Oui, Sophie, absolument. Comment appelle-t-on l'élimination de la muqueuse utérine par écoulement sanguin en l'absence de fécondation ?
Les règles.
Quelle espèce de plante vivace a beaucoup été consommée comme légume de rationnement pendant la Seconde Guerre mondiale ?
Non.
Le topinambour, Massinissa. Bonne réponse. Qui a réalisé le documentaire Le volcan interdit, nominé aux Oscars en 1967 ? Bravo, Massinissa. Bonne réponse. En quelle année l'Association américaine de psychiatrie a-t-elle retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales ?
1970.
Non, un tout petit peu plus tard.
75, 80.
Non, non. Allez, on va passer à la question suivante. De quel objet tridimensionnel, avec une seule surface et un seul bord, s'est inspiré le logo des matières recyclables ?
Un triangle ?
Non. C'est un nom très particulier, d'après un mathématicien allemand. Ça se corse hein, sur la sixième question, c'est normal.
Non.
Allez, objet tridimensionnel, ça ne vous dit rien. Une seule surface, un seul rebord. Allez, on passe à la dernière question.
C'est pas non, ça ne revient pas.
Dites-moi, Massinissa, vous avez une idée ?
Infini, quelque chose de ce genre-là, mais ça ne revient pas.
Allez, je passe à la dernière question. Quel philosophe italien croyant la pluralité des mondes a été brûlé vif à Rome en 1600 ? Quel philosophe italien croyant la pluralité des mondes a été brûlé vif à Rome en 1600 ? Vous pensiez à qui alors ?
Non, c'est m'est revenu le ruban de Möbius pour.
Oui, alors voilà, vous étiez sur la sixième question, Sophie. Alors, hélas, oui, vous aviez la bonne réponse. Il s'agit bien donc du ruban de Möbius. Florence, vous nous donnez les explications à ce sujet ?
Oui, d'après le mathématicien allemand August Ferdinand Möbius, qu'il décrit en 1858 dans un mémoire présenté à l'Académie des sciences de Paris.
Voilà, Möbius. Ouais. Et quel philosophe italien croyant en la pluralité des mondes, qui pensait que le soleil était une étoile comme les autres, a été brûlé vif à Rome ?
C'était Giordano Bruno, brûlé vif par l'Inquisition romaine pour hérésie.
Juste avant Galilée, hein, pour les mêmes idées, oui. Quasiment. Oui. Et puis en quelle année l'Association américaine de psychiatrie a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales ?
C'était en 73.
Voilà, il fallait le savoir. Mais n'étiez pas si loin, Sophie. Hein ?
Non.
Alors, on va faire le calcul des points, Florence, pour savoir qui a pris de l'avance.
Égalité parfaite, 10 points partout.
Bon, bah, tout est possible avec le mot mystère. C'est la dernière manche de ce jeu. Sophie Massinissa, le mot vous a été transmis juste avant de prendre l'antenne. On commence avec...
Sophie ?
Sophie, vous avez 45 secondes donc, pour faire découvrir ce mot mystère. C'est parti.
Donc alors, c'est un terme qui désigne un organisme issu d'un croisement de deux individus.
Hybridation, un hybride.
Oui. Bonne réponse, Massinissa. Voilà, se dit d'une plante issue du croisement entre des parents nettement différents, appartenant à la même espèce ou à des espèces voisines, en botanique
notamment.
Bravo, Massinissa, ça vous fait 10 points. Et à vous maintenant de jouer. 45 secondes pour faire découvrir le mot mystère à Sophie. C'est parti.
Il s'agit d'un petit composant électronique qui a révolutionné en fait le monde des postes de radio et c'est même un petit nom qui est resté du coup comme un synonyme du poste de radio.
Alors, Sophie...
C'est un composant électronique dans les amplis aussi, les amplis instruments de musique. Pendant très longtemps, c'était des lampes et c'est passé
la diode.
Avec cette petite...
Non. Pensez au poste de radio.
Ouais, poste de radio. Alors, pour le coup, c'est ce qui... on est passé de la galène et puis au cristal, je crois, à l'utilisation de ce petit élément électronique et à ce composant. Et ça a permis de miniaturiser les postes, de les transporter, tout un tas de choses.
Voilà, vous avez tous les éléments, effectivement. Bonne définition, Massinissa.
Je vous remercie.
Voilà, ces petites radios que vous avez chez vous. Vous en avez un, forcément, Sophie. Un transistor.
Ouh là là.
Oh, je pensais que vous alliez trouver tout simplement.
Oh, j'étais très loin.
Mais pourtant, vous aviez les bonnes clés pour pouvoir trouver cette définition.
Oui, c'était une très bonne définition. Mais
voilà. Merci.
Et vous avez fait le maximum, Massinissa. Hein. Et malheureusement, ça n'est pas suffisant pour être à égalité.
Non, du coup, c'est Massinissa qui remporte le jeu aujourd'hui. Toutes nos félicitations.
Je vous remercie.
Avec 20 points, voilà, vous remportez la boîte de jeu La Tête au Carré des éditions Marabout, 150 cartes, 300 questions pour jouer en famille ou avec vos amis.
Elle vient juste d'arriver. Elle vient juste d'arriver. Elle est très très belle. Voilà, à pouvoir y jouer.
Et on ajoute également le DVD La Valse des Continents 2 chez Arte Éditions.
Merci beaucoup.
Vous êtes très bien défendus tous les deux. En tout cas, félicitations. Merci d'avoir participé à notre quiz, Sophie Massinissa. Et puis, on invite les auditeurs qui nous écoutent à s'inscrire, tout comme vous l'avez fait.
Sur le site de l'émission, sur franceinter.fr.
Bonne journée à tous les deux.
Merci.
Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.
Également.
Aujourd'hui sort dans les kiosques un nouvel ouvrage de la collection du Monde, Les grandes idées de la science, qui explore la vie des grands physiciens et mathématiciens. Cette semaine, Marie Curie et la radioactivité. Marie Curie, célébrée pour avoir occupé une place de premier rang dans un monde d'hommes, peu enclin à considérer que science et femmes sont des mots qui vont très bien ensemble. Elle est devenue une icône universelle, un modèle proposé aux filles ambitieuses. Le nom de Marie Curie est associé à la découverte de la radioactivité qui a été la grande affaire de sa vie. Elle a commencé dans l'allégresse aux côtés de son mari et achevée dans la tristesse et la maladie. La radioactivité est aussi une des grandes affaires de notre temps, vecteur de mort, source d'énergie, dont on ne sait si l'on doit souhaiter ou craindre qu'elle remplace les énergies fossiles, rayons auxquels, dans les hôpitaux, la lutte contre le cancer est redevable, de plus en plus de rémissions. Le parti pris dans ce livre, qui en racontant la vie et le travail de Marie Curie retrace l'histoire de la radioactivité, est que les Curie ne peuvent être considérés indépendamment des découvertes ultérieures qu'ils ont certes rendues possibles, mais qu'ils n'ont pas connues ensemble. C'est ce que vous voulez donc, vous allez le découvrir en lisant Marie Curie et la radioactivité, le secret bien gardé de la matière. Un ouvrage de cette collection Grandes idées de la science proposé par Le Monde en partenariat avec La Tête au Carré. À retrouver en kiosque dès cet après-midi. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Affaire sensible, de quoi parle-t-on aujourd'hui Fabrice ?
Le 9 novembre 1989, la chute du mur de Berlin, évidemment grand événement. L'événement le plus important de l'après-guerre avec le 11 septembre 2001, c'est clair. Et c'est Michel Meyer qui nous en parlera. Correspondant pendant des années en Allemagne, il connaît l'Allemagne comme sa poche.
Juste après les infos, Fabrice, à tout à l'heure.